Deux invités de cadence et une certaine idée du retour. Le chanteur et compositeur Dominique A signe Toute Latitude, 11e et sombre album à flux rythmique. Et le traducteur André Markovitch signe un long poème en forme de spirale, dont le centre pourrait être le souvenir de l'appartement familial à Saint-Pétersbourg, autrement dit la langue.
La compagnie des poètes, par Manu Farid.
André Markovitch, Dominique A, bonjour, bienvenue à tous les deux. André Markovitch, poète, traducteur, on vous doit la retraduction, la traduction patiente et intégrale des Dostoïevski aux éditions Actes Sud, la traduction du théâtre de Tchekhov, du Shakespeare beaucoup, mais aussi Gogol, Mandelstam, poésie chinoise et même d'Armatova en breton, et forcément tout au centre, très au centre, des traductions de Pouchkine. Et c'est d'ailleurs exactement au centre de l'appartement, le récit que vous signez aux éditions Inculte, que vous glissez un poème de Pouchkine. L'appartement, c'est celui que vous achetez à Saint-Pétersbourg, et c'est aussi le souvenir de celui de votre grand-mère et de votre grande-tante, à Saint-Pétersbourg toujours, là où s'est forgée votre langue, votre cadence, votre musique, et autour duquel s'enroule un long poème autobiographique, récit en décasyllabes, en pentamètre iambique, hein, pour être plus précis.
C'est ça, c'est le maître, c'est un maître qui existe en russe, qui existe en anglais, qui existe en allemand, qui n'existe pas en français.
On va y revenir, bien sûr. Et sans point final, hein, qui traque la source, les origines, le chez-soi, ce qui lie la langue d'ici et la langue de là-bas, autrement dit la langue de partage, le français, et la langue intime, le russe, autrement dit encore, ce qui a fait de vous un lecteur et donc un traducteur. De cadence, il est aussi largement question, avec Toute Latitude, de Dominique A, 11e album, hein, qui paraît sous le label 5-7 Vagram, 12 titres qu'on pourrait dire... pressé, hein, qui court, en mode électro-électrique, pulsé par un déluge de rythmique, album aussi noir que le précédent, hein, Eleor fut clair, des secrets, des pénombres, des peurs, des fantômes, des forêts, beaucoup, des mélancolies rurales, sans doute, des oiseaux morts, des morts tout court, des guerres, des colères, et puis une trouée peut-être plus claire au centre, hein, au bord de la pop avec les enfants de la plage, et un dernier titre, le reflet, plus apaisé, celui-là, comme une amorce de l'album composé dans le même temps, mais apparaître en octobre prochain, celui-là, il faudra attendre, une sorte d'alter ego acoustique et solo, là où Toute Latitude s'en remet à l'électrique et au collectif, un album qui aurait pu, qui aurait dû commencer par ça.
La mort d'un oiseau m'a tourné le cœur, je l'ai vu mourir. Au fil des heures, j'ai pensé à lui toute la journée, et même la nuit, ça m'a réveillé. Il était blessé, je l'ai recueilli, et puis je l'ai mis au fond d'un panier, sur du linge blanc, dans une pièce fermée. Il ouvrait le bec comme pour crier. Lorsqu'il s'est éteint, j'ai attendu d'être sûr qu'il ne vivait plus. Puis je l'ai posé au bord d'un chemin, jusque dans la mort, il ne pesait rien. Pourquoi faire le mal ? Je ne comprends pas.
La mort d'un oiseau, extrait de l'album Toute Latitude, hein, tout juste paru sous le label 5-7 Vagram, et pendant qu'on l'écoutait, ça causait rythmique, métrique, hein, titre qui aurait pu hein, être la porte d'entrée de l'album, hein, puisque c'est par lui que vous avez commencé, Dominica. Qu'est-ce que ce premier titre-là, qu'on entend, dit de l'impulsion première de cet album, ou en tout cas de ce que vous y cherchez, à moins que ce ne soit l'idée de l'album qui vous ait dicté ce titre-là?
Non, en fait, c'est tout simplement que le titre commence par une boîte à rythme et donne le « là », si j'ose dire, rythmique du disque. Et c'était pas thématique, hein, c'était pas le fait de parler de la mort d'un oiseau, c'était pas en référence, parce qu'on m'en parle beaucoup avec un titre que j'ai fait qui est un peu emblématique dans mon parcours, le courage des oiseaux, c'était pas du tout pour moi l'idée de revenir là-dessus. Mais voilà, c'est une petite histoire qui m'est arrivée, que j'ai eu envie de raconter de la façon la plus simple possible, la plus neutre. Cette idée aussi de galop, de cavalcade musicale est née de ce titre-là. En fait, j'ai eu envie de faire finalement que le disque soit sur cette impulsion-là, 40 minutes durant.
Ça n'est donc pas l'oiseau, c'est bien la rythmique. Alors la rythmique, ça passe par un outil, par un objet en particulier, qui est donc cette boîte à rythme, la Tanzbar, pour ne pas la
Tanzbar.
Nommer. Tanzbar, mais pourquoi il y a un petit... Pourquoi il y a un
umlaut
dessus?
Ah bah c'était Tanzbar en fait, hein, vous avez peut-être raison.
Parce qu'il y a un umlaut,
ah, oui,
a priori,
oui, d'accord. Bah,
on devrait dire Tanzbar.
Eh ben voilà, vous voyez, j'ai vraiment des... J'apprends plein de choses.
Mais vous avez le droit de l'appeler Tanzbar, hein, si
non,
ça
non,
vous
non,
vient,
mais Tanzbar,
ça
va aussi, c'est parfait.
Qu'est-ce que vous en attendiez de cet outil-là? Qu'est-ce qui vous a fait signe hein, dans cette boîte à rythme?
J'en attendais pas autant. Pour moi, c'était juste un outil de base qui devait être supplanté par de l'organique, par le jeu de musiciens, de batteurs.
En l'occurrence, il y a
deux batteurs. Et en fait, il s'est avéré, au bout d'un moment, assez rigoureusement impossible de s'en passer. En fait, elle charpentait toutes les chansons, elle les structurait. Et en fait, le jeu de mes camarades batteurs, Sacha Taurop et Étienne Bonhomme, ça a été vraiment de tourner autour d'elle, des fois de la rejouer. C'est-à-dire que Étienne a repris les mêmes sons et a rejoué à l'identique, les rythmiques. Donc, on ne sait plus qui joue quoi, en fait. Par moment, moi-même, quand j'écoute le disque, je ne sais plus s'il y a vraiment du jeu organique derrière, s'il n'y a que la boîte, si ça a été rejoué. Et c'était l'idée, c'était en fait que ce soit un conglomérat, en quelque sorte, rythmique, et que ce soit un différencié entre l'homme et la machine.
La boîte à rythme, j'imagine, ça n'est pas la première fois
que
vous en faites usage, mais celle-ci en particulier, quelle couleur, quel son particulier donne-t-elle?
Je dirais que je suis tombé amoureux de ce son, en fait. C'est un son qui renvoie qui renvoie la musique un peu électronique allemande de la fin des années 70, en même temps au début des années 80, et qui a quelque chose de très tactile dans son utilisation. Il n'y a pas de souris d'ordinateur, c'est des tout petits boutons, des manipulations très fines. Et ce que j'aimais aussi, c'était le fait que j'ai pas compris comment on faisait pour conserver les rythmes en mémoire. Donc à chaque fois que je l'éteignais, ben, le rythme disparaissait. Et j'aimais bien ce rapport-là aussi, ce rapport finalement où... Ben, au bout d'un moment, on éteint la machine ne marche plus, et puis voilà, il faut retrouver des idées, et il faut pas se laisser envahir par justement ces propositions. J'aime cette idée-là. Une fois que c'était enregistré, ben, le rythme disparaissait. Je n'aurais pas la tentation de l'utiliser tel quel sur scène, de fonctionner sur des séquences sur lesquelles on jouerait, parce que ça, c'est un tue-l'amour et c'est un tue-la-musique, en fait, sur scène.
André Markovitch, je vous ai entendu lui parler justement de rythmique pendant qu'on écoutait ce titre.
La mort d'un oiseau, c'est 5 syllabes. Les mots, ça fait 5 syllabes. Et donc, c'est la matrice de toute la chanson. Après, il y a des variations. Mais c'est 5, 5, 5, 5, 5, 5. Et pour moi, je disais que c'était ça qui donnait l'unité avec la variation. Et pour moi, c'était passionnant parce que 5, 5, en métrique, c'est pas un décasyllabe, c'est pas 10. Parce qu'un décasyllabe, c'est soit 4, 6, soit 6, 4, mais pas 5, 5. Parce que le décasyllabe est un rythme, en déséquilibre. Alors que ce qui frappe dans la chanson de Dominique A, c'est l'équilibre absolu dans la variation.
En 5, 5, c'est pas votre truc, disiez-vous.
Non, pas du tout à la base. Ouais. Mais je pense que c'est en ça aussi que pour moi c'était intéressant de partir de ce titre-là, parce que j'avais l'impression de sortir de un peu de systématisme rythmique que j'ai repris, que j'ai retrouvé par la suite en écrivant la suite. Mais il y avait un truc comme ça, je pense, qui aussi a déterminé la nature du rythme, qui est un petit peu bizarre. C'est-à-dire que c'est pas une rythmique conventionnelle. Les batteurs se penchaient un petit peu dessus, c'est très très répétitif, et en même temps il y a quelque chose de pas du tout binaire. Il y a un truc très suspendu. Qui, je pense que ça fonctionne justement avec cette métrique dont vous parlez, des paroles, enfin du texte.
Justement, parlons-en du texte. Si, comme vous le dites, une chanson, c'est d'abord l'intégration du sens dans le son, qu'est-ce que cette rythmique-là, donc de manière générale, finalement, cette boîte, a imposé de particulier à l'écriture même du texte?
Bah, je dirais que ce que ça a imposé surtout, c'est une espèce d'assèchement harmonique.
Que vous avez rectifié.
Oui, que j'ai rectifié sur le tard, mais en tout cas sur les structures des morceaux, c'est très très simple. Il y a pas, c'est pas des suites d'accords très compliquées. Bon, ça n'a jamais été le cas avec moi, mais là, je suis revenu à quelque chose de plus restreint.
Je pensais à l'écriture des textes.
Ce morceau-là qu'on vient d'entendre est un peu un contre-exemple parce que bah, après, j'ai tendance à fonctionner où j'écris des textes indépendamment de la musique qui va en découler. C'est-à-dire que là, il y a vraiment un point d'équilibre. Et je dirais, je pense que j'ai écrit, je me souviens pas très bien, mais que tout a été vraiment très concomitant dans l'écriture, la mort d'un oiseau entre le texte et la musique. Mais en général, je pars vraiment d'un texte bâti, enfin écrit en amont.
Cet album-là, Dominika, il est comme alors soutenu d'une certaine façon par l'attente du suivant, et puis comme porté aussi par un travail graphique très très développé. Alors je pense évidemment à la couverture avec ce couple de centaures, et puis une sorte de d'hyperclip, je sais pas comment l'appeler,
c'est-à-dire oui,
quatre titres qui sont montés en un film d'animation. Hein. Ce film, vous le décrivez vous comme une succession de plans en séquence. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là à construire, à organiser un album?
Oui, oui, pour moi c'est des plans séquences. Alors c'est rigolo parce qu'en même temps, je suis pas très cinéphile, mais c'est vrai que quand j'organise, quand je structure un disque, une fois que j'ai les morceaux, il faut les faire se côtoyer, se rencontrer et s'aimer entre eux. C'est pour moi comme la recherche d'une fluidité qui s'apparenterait à un montage de plans séquences.
Alors pas très cinéphile, pour autant quand je vous ai demandé de penser à des archives, vous m'avez donné.
Ça veut dire, on voudrait vivre encore. La même chose. Refaire peut-être encore le grand parcours. Toucher du doigt le point de non-retour et se sentir si loin, si loin de son enfance. En même temps qu'on a froid, qu'on pleure, quand même on pense que si le ciel nous laisse, on voudra
un extrait de Holy Motors de Léos Carax en 2012. La voix de Gérard Manset sur les images de Carax. Alors, je ne sais pas si c'est d'ailleurs pour ça ou pour le film.
Mais les deux, en fait. Là, ça fait plus. Carax plus Manset, ça fait plus. André Markovitch abonde. C'est un choc esthétique, hein. Vraiment. J'étais tétanisé dans mon fauteuil quand j'ai vu ce film, quoi. Vraiment, véritablement. Surtout cette fin avec où il rentre dans où le personnage, un des personnages incarné par
Denis Lavant.
Oui, Denis Lavant rentre chez lui et avec cette famille de singes qu'il accueille et cette chanson qui déboule. C'est en fait, quand je vois ça, moi, je suis complètement paumé, mais j'adore. Parce que je comprends pas, je comprends rien en fait à ce qui se passe. Mais c'est bouleversant. Enfin, ça vous remplit, quoi. Mais pourquoi? Je n'en sais rien.
Alors, puisqu'il est lamancé, parlons-en, Dominika. Quelle place est-ce qu'il pourrait occuper dans votre panthéon? Alors, peut-être pas le Mancé d'aujourd'hui, mais au fond, pour vous, quelle serait l'idée de la chanson française qu'il porte?
C'est une idée vraiment très à part. C'est-à-dire, il est seul. Hein. On dit qu'aucun homme n'est une île, mais lui, Gérard Mancé, est une île. Je crois que... c'est compliqué. En fait, je comprends tout à fait ce qui rebute les gens qui n'aiment pas Mancet, puisqu'il y a une idée de finitude et de mortalité dans chacune des syllabes qu'il chante, enfin qu'il prononce. C'est assez terrifiant, en fait. Et puis, il y a un drôle de truc chez Mancet où je suis pas, en fait, en pâmoison devant son écriture. Mais il y a un rapport à la mélodie, comme cette chanson, l'extrait qu'on vient d'entendre, où il y a une force incroyable, qui est sans équivalent en fait, et qui est une espèce de branche morte, parce qu'il n'y a pas de descendance. Je crois qu'il vient de Ferré, mais qui vient de Mansay, j'en sais rien. Moi, je me prétendrais pas venir de Mansay. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup écouté, que j'écoute encore régulièrement, et qui compte beaucoup. Mais c'est compliqué de se dire être dans la lignée de Jean Mansay, c'est tout bonnement impossible.
André Markovitch, hein, parce que je vous vois opiner. De...
Ah non, non, c'est ça, parce qu'on entendait justement comme l'héritage de Ferré rien que par la voix, et à la fois quelque chose de totalement différent. Et c'est comme ça que ça vit, quoi. Ça se souvient et ça réinvente.
Et une mélancolie certaine, une certaine mélancolie. Et qui, là, pour le coup, aurait à faire avec la chanson française.
Bah, je crois, de toute façon, que les grandes chansons, oui, elle est portée par ça. Mais c'est vrai que c'est peut-être une vision un peu limitative de ma part, hein, l'histoire de la mélancolie. Mais bon, j'ai l'impression
quand même. C'est parce qu'on vous y ramène souvent aussi.
Bah, on m'y ramène souvent, mais je dirais que le répertoire, la chanson française, vous y ramène tout le temps.
André Markovitch, vous citez un terme forcément russe. Alors, je crois que c'est votre grand-mère, hein, pas votre grande-tante, qui vous dit un jour, alors que vous êtes sur le départ pour la France, je suis dans les mirlancolies.
C'est-à-dire en russe, elle dit pas ça. Ça, c'est Françoise Morvan qui a proposé cette traduction-là. Parce que c'est une citation. Enfin, donc, on la voyait une fois par an, puis on partait, et c'était quelqu'un qui ne se plaignait absolument jamais. Et qui donc disait pas je suis triste ou quoi, ou qu'est-ce. Mais elle sentait une mélancolie profonde, mais elle disait pas mélancholia. Elle disait mirlichlundia. Et moi, je pensais que c'était un mot qu'elle avait inventé. Et en fait, quand on a traduit Les Trois Sœurs avec Françoise, c'est ce que dit Macha. Yavsev Merichlundi. Et c'était un mot de l'époque pour ne pas se plaindre, pour ne pas le dire. Et j'ai trouvé, et Françoise, quand j'ai, et moi je ne trouvais pas comment le traduire, et Françoise, elle a trouvé cette expression extraordinaire, je suis dans les mirlancolies. Et donc oui, Macha, dans notre traduction, elle est dans les mirlancolies. Elle ne se plaint pas. Et ma grande-tante qui disait ça, c'était exactement ça. C'est quelqu'un qui avait traversé le siècle, qui est née en 1890. Elle est morte en 1991. Elle se souvenait parfaitement de 1905, hein, de la première révolution russe, de la guerre, etc. On a une photo de groupe d'étudiants. Sur cette photo, ils sont 25. Il y en a deux qui sont morts dans leur lit, sur ces 25. Et jamais, jamais, elle ne se plaignait. Elle a dit à la fin de sa vie, on lui dit, mais vous avez vécu dans un moment formidable, et je vous envie, disait la dame qui lui parlait, et elle a répondu une phrase absolument incroyable, elle a dit, y a ça moi si bien à vide, ça veut dire, je m'envie moi-même.
C'est joli, super joli.
Alors, la mélancolie, dans toute latitude, Dominica, ça passe aussi par une autre façon de poser sa voix. Alors, on ne va pas non plus en faire une révolution, mais non. Néanmoins, une autre façon de poser sa voix et de se faire entendre. Hein. Je pense en particulier plutôt à la dernière partie de l'album, hein, qui, d'une certaine façon, déchante un peu.
Exactement, la dernière
progressivement.
Partie
déchante. Alors, le temps de quelques titres un peu parlés, chantés, ou qui sont parfois même un petit peu murmurés, et ça donne ça.
Je suis retourné haut. Corde ferme à l'abandon. Je suis entré dans les tables noires. Les poutres tenaient bon. Tenaient le plafond éventré. Les planches d'avant-guerre, la première. Siècle des nuits. Nuit des siècles. C'était si vieux ici, depuis toujours. Si haut les arbres en serrant la ferme, si fleuri le jardin au centre de la cour, encore fleuri, comme quand des gens vivaient ici. Comme quand des gens vivaient ici. Et si haute la peur qu'enfant, on jouait à réveiller. L'après-midi dans le grenier immense de la maison du fermier. le fermier qui avait l'air si gentil et qui passait ses nerfs sur ses vaches, sur ses fils et sur le commis. Le commis qui vivait au-dessus de l'étable, comme en 1900. Sa silhouette torse nue à la fenêtre le soir, dans la lumière blanche de l'ampoule au plafond de sa chambre. Et au bout d'une allée, longeant le jardin clos derrière chez les fermiers, il y avait le château. Et les bêtes empaillées dans l'entrée bleu pâle, un renard et un cerf. Et en face, l'étang, au bout d'un champ en pente douce, comme un répit.
Un second extrait de l'album Toute Latitude de Dominica. Le titre, c'est Corps de ferme à l'abandon. Un texte qui revient sur les lieux, un texte à secret, à peur, à enfance. Et puis un texte qui dit aussi le paysage rural aujourd'hui. Et puis donc un texte chanté, parlé. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a des textes ou des thématiques inchantables?
Voilà, ce texte-là était rigoureusement inchantable. Enfin, en tout cas pour moi. Il fallait que ça reste, qu'on soit en rapport étroit avec le mot, et le chant peut des fois éloigner du mot. En fait, le chant peut distraire du mot. Et là, je voulais vraiment que le mot soit directement rentre dans l'oreille de l'auditeur. Et puis après, tout est aussi venu de cette espèce de boucle, là pour le coup, de boucle rythmique. Mais j'aimais beaucoup l'idée finalement de chanter ce genre, enfin de chanter, de parler ce genre de texte avec cet accompagnement musical un peu urbain. J'aime bien ces contrastes-là en fait. Je trouve que c'est assez jubilatoire de parler de la ruralité avec des musiques très, très citadines.
Ça veut dire que s'il y a des textes inchantables, Dominica, j'imagine aussi qu'il y a des chansons qui ne tiennent pas debout dans le sens où elles ne s'envisagent pas sur scène. Et je me demandais comment cette question-là se posait pour vous, puisqu'il y a une tournée qui démarre, sur ces textes-là.
C'est vrai qu'il faut trouver des parades. Là, en l'occurrence, le morceau dont on vient d'entendre un extrait, moi, je tenais très fort à ce qu'on réussisse à le faire passer, sans que ce soit en force. Et là, on a trouvé justement une façon de l'amener dans l'organisation du concert, et puis surtout musicalement, où là, il n'y aura aucun problème de compréhension, ce qui est une gageure, en fait, parce que je veux pas un texte que je veux me mettre à hurler sur scène, et je veux garder ce ton un peu. Et là, on a trouvé vraiment une version qui ne dénature pas la version initiale, et où la voix va se poser véritablement. Et évidemment, l'exercice est un petit peu différent, parce que quand on chante, très naturellement, la voix peut se placer au-dessus.
Inversement, qu'est-ce qu'il reste d'une chanson lorsqu'elle n'est plus debout? C'est-à-dire lorsque vous la glissez dans un livre, je pense par exemple à Rue du Marais ou Terre Brune, hein, que vous aviez glissé en fin d'y revenir, qui était un texte paru en 2012 hein, chez Stock. Sans corps, sans musique, qu'est-ce qu'il devient?
Il devenait un point de, comme un appendice pour expliquer le pourquoi du comment du texte. En prose, en fait, puisque les deux chansons dont les textes étaient reproduits à la fin d'y revenir, c'était en quelque sorte le point de départ du texte en prose, en fait, avec des références à certains épisodes qui sont retracés dans le bouquin. Donc pour moi, c'était nécessaire, en fait, ils avaient impulsé le texte. Donc c'était nécessaire de les inclure. Et après, c'est vrai que là, ce rapport-là, c'est pas de la poésie, c'est un référent. Un référent du texte en prose. C'est pas la chanson elle-même, c'est pas la poésie. Pour moi, il était. Ça ne pouvait pas. Le texte aurait été bancal s'il n'y avait pas ces points de référence.
Alors, par ailleurs, la poésie, Dominica, s'invite quand même dans votre répertoire, comme ça, de temps en temps. Alors, je crois qu'il y a très très longtemps, il y a une histoire d'un poème de Filiou. Autre exemple qui serait cette très belle chanson qui s'appelle Marina Tsvetaeva, qui est une chanson que vous avez écrite après la lecture, j'imagine, des poèmes de Marina Tsvetaeva. Et ça donne ça.
Tu le sais, ici tout brûle.
de tout temps et si tout brûle. Et les portes et les livres, tout ce qui porte un nom brûle. Tout ce qui porte un nom brûle. Et comment va la vie à Paris? Comment va? L'exil et la Russie, le cœur sans son toit. Tu suppliais le tsar de relâcher Radzin. Chaque pont traversé aura été coupé. Et les granges et les villes, tout ce qui porte un nom brûle. Tout ce qui porte un nom brûle. Et comment va la vie à Paris?
Marina Tsvetaeva, un titre signé Dominica, donc un extrait de l'album Sur nos forces motrices. Alors j'ai extrait de l'album, en fait c'était un album concert. Hein,
c'était live, de, oui. On l'entend un peu. Hein.
De 2007, oui, on l'entend un peu, mais par ailleurs vous ne l'avez pas enregistré.
Non, non, c'est la seule version.
Ça veut dire que c'est une chanson qui n'a pas trouvé sa place ailleurs.
Bah, elle a trouvé sa place sur ce disque parce que c'était une... Justement, je trouvais que même si c'est imparfait, elle était rattachée à ce moment de scène et puis la version me plaisait aussi quand même en dépit de ses imperfections.
Qu'est-ce que vous entendez d'imparfait? Ça fait deux fois que vous utilisez le terme d'imparfait.
Ben, je veux dire que par là la voix est un peu à côté, etc. Mais il y a le morceau est là. Enfin, donc voilà, on n'est jamais content de ce qu'on fait. Hein, donc voilà.
André Markovitch, évidemment, je vous entendais commenter pendant qu'on entendait ce titre.
Très, je ne connaissais pas du tout et je suis très touché par cette chanson-là parce qu'en même temps, j'entendais des citations de traductions que je connaissais.
Ah oui, oui, oui.
Comment
oui.
Ça va la vie avec
oui,
un
oui,
autre.
Oui, tout à fait. Comment ça va la vie, ces tentatives de jalousie.
Bien sûr, c'est traduit par Eve Malray qui était une grande amie à moi.
Et en fait, j'avais fait cette chanson tout autant par rapport à ce que j'avais lu de Marina Tsvetaeva que par rapport à sa vie. J'avais envie de parler de ce qu'est aussi le fait d'écrire, ce qu'est l'art quand on est dans la misère, en quelque sorte. Qu'est-ce que ça signifie? C'était, pour moi, elle symbolisait aussi ça. La chanson est aussi là-dessus, sur dans quelle mesure on peut écrire et quand on a le ventre vide et qu'on doit donner à manger à ses enfants. Ça m'intéressait de parler de ça.
Alors, de Marina Tsvetaeva à Armatova, il n'y a qu'un poème, hein, parce que par ailleurs, elle en a écrit un, de poème pour Armatova. On l'écoute.
Есть три эпохи у воспоминаний, и первая, как бы вчерашний день. Душа под своном их благословенным, и тело в их блаженству и тени. Еще не замер смех, струятся слезы, пятно чернил не стерто со стола, и как печать на сердце поцелуй. Единственный, прощальный, незабвенный. Но это продолжается недолго, уже не свод над головой, а где-то в глухом предместье дом уединенный, где холодно зимой, а летом жарко, где есть паук и пыль на всем лежит, где и сливают пламенные письма, из-под тишка меняются портреты, куда как на могилу ходят люди, а возвратившись, моют руки мылом и стряхивают беглую слезинку с усталых век и тяжело вздыхают.
Les souvenirs passent par trois époques. Pour la première, on se croirait hier. L'âme vit sous leur voûte bienheureuse, le corps est dans leur ombre au paradis. Le rire vibre clair, les larmes brillent. La tache d'encre est fraîche sur la timbre et le baiser qui a scellé le cœur est le dernier, unique, inoubliable. Mais tout cela ne dure pas longtemps. Et nous ne sommes plus sous une voûte, c'est une maison loin dans un faubourg où il fait froid l'hiver et chaud l'été, où l'araignée règne sur la poussière, où les lettres d'amour se désagrègent, où les portraits changent à notre insu. On y revient comme sur une tombe, puis on se lave longuement les mains. On essuie une larme qui s'attarde sur la paupière lasse et l'on soupire. Mais les heures s'égrènent, un printemps succède à l'autre et le ciel devient rose. Les noms de villes changent, les témoins ont disparu, il n'y a plus personne pour partager larmes et souvenirs, et lentement, les ombres nous délaissent que nous n'invoquons plus déjà et qui, si elles revenaient, nous feraient peur. Et un jour au réveil, nous comprenons que nous avons oublié le chemin vers la maison lointaine, et haletant de honte et de colère, nous courons la retrouver, mais comme dans les rêves, tout a changé, les gens, les murs, les choses, nous sommes étrangers, des inconnus. Nous nous sommes trompés d'adresse, Dieu. Et c'est alors que vient le plus amer. Nous devinons que notre vie présente ne peut plus accueillir notre passé et qu'il nous est plus étranger à nous qu'il pourrait l'être à un voisin quelconque. Nous ne reconnaîtrions plus les morts et ceux dont Dieu aura voulu qu'ils vivent sans nous revoir ont fait leur vie. Et даже все к лучшему, et tout est pour le mieux.
Merci André Markovitch. Ce qu'on entendait, c'était donc la voix d'Anna Armatova, un extrait de la sixième élégie du Nord, écrite en 1945, traduit et lu par vos soins, oui. André Markovitch. Armatova qui ouvre littéralement l'appartement, hein, ce récit, ce poème que vous signez aux éditions Inculte. Qu'est-ce que vous entendez dans cette élégie, donc composée en février 1945, hein, pour que votre récit se place sous ce chant-là, c'est-à-dire qu'est-ce que vous y entendez? Vous disiez j'entends la voix de ma grand-mère, mais
oui,
mais
c'est vrai, en plus c'est vrai, mais pas seulement. Par dehors de ça, en dehors de ça, sur la mémoire, sur la fausse nostalgie de la mémoire. Comment est-ce qu'on veut vivre de mémoire? Et comment le lieu disparaît? Et comment finalement c'est normal et c'est très bien? Et il se trouve qu'Anna Akhmatova était le poète le plus que ma grand-tante, qui est très présente dans ce livre, adorait, vénérait, qu'elle avait entendu quand elle était jeune. Ils avaient le même âge. Et ce livre, c'est aussi un livre sur la mémoire et sur les lieux, sur les maisons qui disparaissent, sur la différence entre un lieu physique et un lieu mental, sur comment le lieu mental essaie de faire vivre le lieu physique et comment le lieu physique, simplement par l'effet du temps, détruit le lieu mental. C'est-à-dire, en fait, c'est un livre sur la recherche d'un lieu, la recherche impossible d'un lieu. Et naturellement, comme vous l'avez dit au début, j'étais très sensible à ça, donc sur la langue. Parce que le seul lieu possible, finalement, avec le temps, c'est la langue. Avec en plus cette chose que là j'entends, parce qu'en fait ce poème, quand vous m'avez demandé mais quelle illustration sonore pour l'émission, je ne savais pas qu'Anna Akhmatova l'avait enregistré.
Parce qu'elle a fait pas mal d'enregistrements.
Oui,
quand même.
Oui. Mais celui-là je le connaissais pas. Et quand je l'ai entendu avec cette voix et ces intonations que je connaissais, que je connais, j'en parle au présent, ça m'a vraiment saisi parce que plus personne ne parle comme ça, russe. Plus personne ne dit ça. Mais plus personne n'est capable de faire ces sonorités-là en russe. Aucun russe.
Si vous,
pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Plus personne. Et c'est autre chose, mais c'est pas ça.
Puisqu'on parle de sonorité, on va parler rythme aussi, André Markovitch, hein, puisque le poème Le Vôtre, enfin pas seulement d'ailleurs, la traduction d'Armatova aussi,
oui,
se place donc non seulement sous son chant, mais sous une cadence. Hein. Alors celle, j'allais dire, décasyllable.
C'est un décasyllable.
Non, parce que le décasyllable est boiteux, d'une oui, certaine façon, hein, comme vous l'avez dit, mais du pentamètre iambique. Jusque dans vos traductions hein, de Pushkin, de Kodasevitch, d'Armatova, qui revient encore d'ailleurs un peu plus loin, et puis d'Arseny Tarkovsky, le père poète hein, d'Andrei. Qu'est-ce que ce rythme-là, cette métrique-là, permet? Est-ce que c'est une affaire de mémoire, là encore aussi? Qu'est-ce que ça dirait de vous? Parce qu'il s'agit, après tout, il s'agit aussi de trouver une forme à un récit de soi. C'est quand même aussi ça, votre
vous
texte.
Voyez, je dis toujours, d'une façon un peu ironique, mais finalement très sérieuse, que le pentamètre iambique, c'est le maître de l'Europe. Je veux dire, qu'est-ce que je veux dire par là? 10 syllabes, ça apparaît sur la chanson de Roland. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans la
mais c'est la forme épique, en tout
voilà,
cas.
Bon, Après, il y a les 10 syllabes des troubadours et de l'Italie. Et après, chaque littérature de l'Europe adapte ce rythme à sa façon. Et en Angleterre, puisque la langue est, comment dire, on marque l'accent, et l'accent est important, on utilise les accents. On a fait ce qu'on appelle un pentamètre iambique, un iambe, c'est une syllabe, c'est une unité de deux avec accent sur la deuxième, c'est un deux, un deux, un deux, un deux, un deux, c'est tout simple. Bon, et c'est le vers de Shakespeare. Mais quand l'Allemagne commence à prendre conscience d'elle-même, du fait qu'elle est allemande, et pas simplement les Prusses, la Prusse, la Bavière ou je sais pas quoi, comment ils font? Ils traduisent Shakespeare en pentamètre. Et le pentamètre devient l'expression même de l'Allemagne. Et Hölderlin écrit en Pédocle, en pentamètre. Et la littérature russe, qui naît de la littérature allemande, en même temps de la littérature française aussi, mais le romantisme russe naît de l'Allemagne, utilise ce maître, et Pouchkine utilise ce maître. Et il existe une tradition de ce maître qui n'existe pas en France. Et ce maître est pour moi l'image même, finalement, de ma vie. C'est-à-dire, j'écris dans une langue avec l'oreille d'une autre langue, avec la mémoire d'une autre langue. Et comment est-ce que tu fais pour vivre dans les deux? Et c'est pour ça que j'ai utilisé la forme d'un récit. Et il existe des récits en pentamètre, iambique, en russe, etc. Je vais pas discuter sur ça. Mais par exemple, je sais pas, mais même en Angleterre, je veux dire, Le paradis perdu ou Paradis retrouvé de Milton, c'est aussi écrit comme ça. Donc voilà, c'est pas ça. Mais comment est-ce que tu fais un récit? Parce que c'est un poème, mais pour moi, c'est pas tellement la question que c'est un poème. C'est surtout un récit. C'est je raconte quelque chose.
Et alors, comment le français s'en débrouille?
Eh ben, voilà. Vous avez une illustration de ça. Et c'est pour ça qu'il y a d'un côté des textes, comment dire, traduits dans ce rythme-là. Et de l'autre côté, et donc qui sont écrits d'une façon assez classique. Et de l'autre côté, le texte que j'écris moi, qui est une seule phrase, dans laquelle on va à la ligne, après cinq accents, on va à la ligne, point final, indépendamment. En quelque sorte, c'est un beat. C'est un battement. Pam, pam, pam. Et ce que tu mets dedans, ça dépend. Et ce qui est essentiel, c'est que c'est un beat qui n'est pas arrêté. Ça commence au début et ça ne finit pas. Parce que vous n'avez pas invité encore un fantôme.
Par ailleurs, il n'y a pas de point final.
Voilà.
Je le note.
Parce que et c'est ce que je voulais dire. Je touche du bois, etc. J'ai pas fini mes œuvres complètes et j'ai pas du tout l'intention. Et donc, etc. Vous comprenez? Donc voilà. C'est aussi ça. C'est-à-dire, c'est un truc, une boîte de musique. Moi, c'est ça que j'ai été quand Dominique a parlé de ça. C'est exactement ça que j'entendais. Alors, c'était ma propre boîte à musique avec mes propres voix, etc., etc. Ce qui est, en fait, ce maître, c'est un lieu dans lequel tu fais ce que tu veux. Et donc, voilà. Et tu fais comme ça.
Alors, ce récit, André Markovitch, ce poème, cet appartement, ces appartements, parce qu'il y a donc cet appartement que vous achetez, et puis l'appartement...
Il y avait ma grand-tante et ma grand-mère avaient une chambre dans un appartement communautaire qui avant avait appartenu à la famille, et nous, quand on était enfants, on allait là-bas. Et il y avait quelque chose de l'ordre de l'éternité dans ce lieu-là, parce que rien ne bougeait. Et c'était le seul lieu sur Terre où je me sentais vivre. Enfant. Bon. Et puis, à la mort de ma grand-tante, ça a disparu. Et tout a disparu. Et au moment où elle est décédée, c'était 1991, j'ai touché mes premiers droits d'auteur de théâtre.
C'était pour Platonov.
Pour Platonov, de Jean Lavaudant. Et tout à coup, j'ai touché 100 000 francs. Et ce moment-là, c'était la fin de l'URSS et le début de la propriété privée. On pouvait commencer à acheter. Et les gens partaient. Parce que qui vendaient les appartements, les gens qui partaient, c'est les juifs. Parce que les autres étaient acceptés nulle part, les juifs étaient acceptés au moins en Israël. Et donc, c'est un juif qui arrive en URSS et qui achète l'appartement d'un juif. Et j'ai acheté un appartement. Pour 100 000 francs, j'avais pas 102 000, j'avais 100 000. Et je l'ai toujours, cet appartement, sauf que j'y vis pas. Et 25 ans passés, plus que ça. Et ce livre, c'est sur le temps. Qu'est-ce qui fait que tout à coup, ma mère, à l'âge de ma grand-mère. C'est quand même très bizarre comme histoire, ça. Oui.
Et il y a des affaires de spirale, beaucoup d'affaires de spirale dans ce récit poème André Markovitch. Vous y revenez donc, hein, on l'a bien compris aussi sur votre travail de traducteur, hein, donc des tout débuts. Et puis vous revenez aussi sur le chantier, évidemment sur le chantier Dostoïevski, hein, sur sa discipline de travail, 20 jours par mois, parce qu'on ne travaille que 20 jours par mois, qu'on travaille bien que 20 jours par mois, phrase à phrase, hein, par petite dose pour garder l'équilibre, écrivez-vous. Dostoïevski, dont on apprend d'ailleurs qu'il ne pouvait habiter que des immeubles d'angle.
Oui, hein, c'est un truc très bizarre.
Une belle histoire. Et puis vous évoquez le rythme de cette langue de Dostoïevski, que j'entendais, écrivez-vous, me semble-t-il en russe, d'une façon encore plus intense quand elle était passée par mon français. Ça veut dire que lire pour vous, c'est traduire.
C'est traduire, absolument. Il y a deux façons de lire. Tu lis avec les yeux, et bien avec les yeux, ça glisse. Ben, parce que les yeux, comment dire, c'est idiot de dire ça, mais ils n'ont pas de doigts, quoi. Tu vois, tu glisses. Mais quand tu traduis avec les doigts. Pas avec les yeux, avec les doigts. Et donc là, tu es conscient de chaque mot, de chaque signe. Et du coup, la lecture, mais elle est incroyablement plus intense. Parce que ce que tu lis, c'est pas tellement les idées, c'est les mots. Et ça change radicalement les choses. Radicalement. Et du coup, vraiment, je pense que, en fait, je n'ai pas lu beaucoup de livres dans ma vie. Parce que finalement, j'en ai traduit un certain nombre, mais j'ai pas traduit autant qu'il y a de livres dans ma bibliothèque.
C'était votre objectif pourtant, de traduire tous les livres du monde.
Ouais, c'était ça, mais enfin, bon, quand on a 16 ans, je dis ça. Mais non, mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est comme ça.
Alors c'est aussi, André Markovitch, c'est aussi entendre quelque chose. Hein. Puis je vous ai mis à rappeler hein, souvent que lire et réciter se dit pareillement en russe. Et vous écrivez, ici et là, en même temps, sans dire ce que c'est l'ici et que le là, entre les deux, puisque ce qui existe en russe et que l'oreille du lecteur russe saisie à l'instant même en France n'existe pas, on compte les syllabes, pas les accents, il n'y a pas d'accent, mais moi j'entends, alors que dois-je faire si j'entends une langue sous une autre, si je vis là, si je vis ici, et non pas dans le corps, mais dans la langue. C'était exactement ce dont nous parlions tout à l'heure. Entendre une rythmique, parce que c'est ça aussi, entendre un rythme plutôt que des mots, quel traducteur est-ce que ça fait de vous, André Markovitch?
Ben, ça fait ce que je suis. C'est ma particularité. C'est-à-dire que ma première langue d'oreille, c'est le russe. Et d'ailleurs, j'ai été très sensible quand j'ai découvert les traductions de Marina Tsvetaeva, que Tsvetaeva a fait de Pouchkine en français. Quand un russe lit ces traductions, il dit « mais c'est extraordinaire !» Parce que c'est exactement ça. Et aucun français n'arrive à les lire. Parce que la langue française, le rythme français, la métrique française, tout est différent. Et je suis bien conscient que mon français n'est pas le français. Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre qu'en avoir conscience et continuer? Je peux rien faire d'autre. Je peux pas me changer, je peux pas changer mon oreille, je peux pas dire excusez-moi, je recommence. C'est pas impossible. Donc je vis comme ça. Et c'est pour ça que j'ai traduit aussi, finalement, les œuvres complètes de Dostoïevski. Parce que la façon dont je le lis impliquait qu'on s'habitue. C'est-à-dire que c'était pas un truc bizarre. Que c'était un truc normal, mais pas français. Et moi, c'est ça qui compte. Qu'on s'habitue à une certaine forme de français, étranger, mais français, bon, pas d'accord.
C'est exactement ce qu'on fait, d'ailleurs, quand on entre dans votre texte. Il y a cette idée que ce que vous avez fait jusqu'ici, tout ce que vous avez fait jusqu'ici, alors vous le dites, hein, ça a été aussi de traduire cette ville d'où vous ne venez pas, mais c'est aussi traduire la voix de votre grand-mère, d'une certaine façon, et au fond, cette voix qui elle-même, dont le lieu est Pouchkine.
Mais c'est ça. C'est-à-dire que la dernière chose dont je suis, je peux dire, mais vraiment fier de ce que j'ai fait. Je peux le dire, on a enregistré avec ma mère et Françoise, Eugène Onegin dans ma traduction, et ma mère qui connaît le texte, donc les 6500 vers par cœur, l'a dit en russe. Non seulement, naturellement, c'est en gros toute ma vie, tout mon travail, mais c'est un monument. C'est comme ça qu'on a parlé. C'est comme ça qu'on a vécu. Et quand on voit ce que devient la Russie maintenant, avec cette espèce de saloperie poutinienne et de vulgarité qui me révulse rien que d'y penser, mais moi je voulais faire qu'on fasse entendre que la langue russe, elle pouvait être quand même quelque chose de sublime.
On n'en doute pas. Une seconde, André Markovitch. Justement, sur cette question de la nostalgie, malgré tout, ou même de cette fausse nostalgie, ou de cette fabrique de la nostalgie dont vous parliez, André Markovitch, une chose frappe aussi dans le texte, c'est qu'évidemment, on y traverse l'histoire. Alors, on entre, on sort dans cet appartement, dans ces appartements, on reste parfois sur le seuil, parfois l'appartement s'ouvre jusqu'en Bretagne, on y revient, on s'y promène. Il y a des photos également que vous avez glissées.
Que Bérangère Janet a faites, qui sont très belles.
À l'intérieur. Et donc, on y traverse l'histoire, la grande et la petite, la vôtre. Hein. Oui. Et alors, ce qui frappe, c'est que vos dates à vous, c'est-à-dire votre récit historique à vous, se passe de date, d'une certaine façon. Et vos dates à vous, ce sont les dates de la littérature, au fond. Hein. Vous dites, elle avait 14 ans à la mort de Tchekhov. Vous dites, c'était 3 ans avant Oblomov. Vous dites, c'était la date de la mort de l'actrice qui créa La Mouette.
C'est-à-dire que la littérature, c'est la vie. Il n'y a aucune différence. Mais quand j'ai compris que ma grand-tante avait 14 ans à la mort de Tchekhov, ça m'a fait comme un choc. Parce qu'on a l'impression que Tchekhov, c'est... Non, elle avait 14 ans. C'est-à-dire qu'elle parle réellement, je peux dire ça, la langue de Tchekhov, je l'ai entendue. Vraiment. C'est quelque chose que je connais. Enfin, physiquement, c'est la langue de Tchekhov. Et une fois, ma grand-tante, une fois, elle m'a demandé « Agdi tipir Vovotchka Nabokov ?» Ça veut dire « Et où il est maintenant Vovotchka Nabokov ?» Quel Vovotchka Nabokov ? Mais elle avait connu Vladimir Nabokov. Vovotchka, c'est le diminutif du diminutif de Vladimir. Mais Nabokov avait 9 ans de moins qu'elle. C'est un truc de fou, quoi. Et donc, voilà. « Agdi tipir Vovotchka Nabokov ?» Parce que Vovotchka Nabokov, il avait émigré, donc il n'avait plus de nouvelles. Ça te laisse un peu désarmé, quoi.
En fait, ça vous raccorde en fait cette histoire aussi, enfin, ces rapports familiaux à la littérature.
Mais bien sûr.
En permanence.
Mais bien sûr. C'est-à-dire, il n'existe pas de différence entre la vie, l'histoire, la littérature. Si la littérature, c'est pas la vie, c'est rien. Et l'histoire, tu vis dedans. C'est pas un truc en soi, c'est que t'es dedans. Et donc voilà. Et l'histoire de ces appartements, l'histoire de cet appartement, bah c'est sur ça. Bah on est dans le temps, maintenant, naturellement. Et c'est bizarre, mais on ne rajeunit pas.
Vous parlez pour vous.
Hein. Non, mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a plein de gens qui sont plus jeunes que nous, mais plus vieux. Ça, je le dis, il ne faut pas le dire.
Moi, je trouve que les gens sont de plus en plus jeunes. Je sais pas si
vous... Non, non. Oui, il y a beaucoup plus, non, y a beaucoup plus de gens autour de nous qui sont plus jeunes que nous. Ça, c'est vrai. Mais c'est une exception.
Je voudrais juste, pour finir, André Markovitch, revenir sur un passage de ce récit, de ce poème, où vous écrivez « J'allais dire chez moi la résidence où j'ai passé ma vie jusqu'à 20 ans ». Donc là, vous parlez de la France, hein, à la barre. Oui. « Depuis 65 ans, là où ma mère habite depuis plus d'un demi-siècle, seule depuis la mort de celui pour lequel elle est venue à contre-cœur, ici, en France, abandonnant les deux femmes qu'il avait élevées ensemble et refaisant sa vie dans un pays où moi, j'ai désappris le russe, je lui ai parlé français jusqu'à 12 ans et elle ne m'a répondu qu'en russe, jour après jour. Je n'entendais le russe qu'à Leningrad pendant les quelques jours où nous étions là-bas, jusqu'au moment où c'est en russe que j'ai répondu moi-même, commençant par retraduire des mots français, mettant des mots français où les mots russes me faisaient défaut. Et quoi ? Des mots, mon Dieu, mais la syntaxe, mais l'emploi des préverbes, la grammaire, au réapprentissage de la langue, comme la marche que j'ai réapprise après des mois de plâtre, quand les jambes savent ce qu'il faut faire, mais ne trouvent pas le mouvement juste, et c'est si simple de se rasseoir et de rester assis, encore un peu, parce que ça fait mal, plus sourdement, et parfois quand le geste est trop raté, ça brûle d'un coup, et la peur d'avoir mal, dès lors, fait peur, possible, encore plus, ainsi les fautes énormes dont je me savais capable à en pleurer, comme des fausses notes qui hurlent dans l'oreille. Une seconde, et je sentais la honte dans ses yeux et l'incompréhension de m'avoir, moi, certes convalescent, mais incapable de lui parler correctement sa langue, oui, moi, son fils français, une impression d'arrachement réel, de l'avoir, elle, hors de portée et moi entre deux mondes, entre deux murs de verre qui ondulent et me refusent quand je les franchis. Je voudrais revenir sur cette question aussi, André Markovitch, pour finir, sur cette question de la honte, qui est quelque chose qui revient. Alors, je ne sais pas si vous en êtes aperçu ou pas, mais en tout cas, qui prend le texte à plusieurs reprises. Hein, la honte d'avoir abandonné cet appartement, d'une certaine façon. Celle d'y avoir installé et piégé, d'une certaine façon aussi, votre amie Volodia. Celle de parcourir Saint-Pétersbourg en touriste. Celle de cette langue, là, dont on vient de lire un extrait, hein, de cette langue dont vous faites le réapprentissage. Et je me demandais ce que c'était que ce sentiment-là, pour vous, ce qu'il disait de vous, pour qu'il tienne autant de textes, enfin, en tout cas, pour qu'il travaille autant de textes à plusieurs endroits de votre parcours.
C'était absolument, le fait que le thème de la honte revienne, c'était absolument délibéré. C'était un des thèmes fondamentaux. Ben, c'est ce qui fait ma vie aussi. C'est-à-dire le nombre de choses dont j'ai honte est, disons, supérieur au nombre de choses dont là je me vantais, mais c'était pas pour... Oui, en gros, bon, voilà. Et je pense que c'est normal. C'est aussi, la honte, c'est aussi un sentiment fantôme. Tu peux rien faire avec. Elle est là, tout le temps. Et c'est ineffaçable. Comme les fantômes qui sont dans le livre tout le temps. Elle est là. Et il faut juste vivre avec.
J'ai l'impression que... l'art fait diversion, justement, souvent, de ce sentiment-là, en fait. Complète. Enfin, moi, j'ai ce sentiment. Enfin, je ne dirais pas, peut-être que c'est pas... Je ne connais pas à quel point ça investit votre existence, ce sentiment-là, mais c'est vrai que souvent, j'ai ce sentiment, justement, que les choses que j'ai réalisées ont été aussi un petit peu impulsées par cette honte, justement, qu'il fallait un petit peu placer sous le tapis via des productions artistiques.
Je pense que, je ne dirais pas placer sous le tapis, mais j'appelle ça justement faire avec, c'est-à-dire accepter comme tel. C'est, on a fait des choses qui ne sont pas bien, ou bien on a vu des choses pas bien et on n'a pas... Et puis il y a aussi cette honte qui est très forte en moi, qui est la honte pour les autres.
Oui, elle dit aussi quelque chose, cette honte de votre rapport à la Russie.
Par exemple, la honte
Russie.
De la Russie. J'ai absolument honte. Ce que je vois là, et de plus en plus, me fait physiquement honte. C'est-à-dire, c'est un sentiment mais insupportable de voir ça. Et je m'étonne parce que, en gros, ça va, quoi. Mais eh ben, plus ça va, plus ça me fait honte.
André Markovitch, Dominika, c'est la fin de cette émission, ou presque, hein, puisque je vous laisse la terminer entre vous et sans moi. Alors, bon après-midi à toutes et à tous.
Ah, c'est bien.
Bah, de quoi pourrait-on parler?
Ben, je sais pas, Manu.
Moi, je voulais vous demander une question basique, en fait, sur la traduction. Qu'est-ce qu'on lit en tant que lecteur quand on lit une traduction? Qu'est-ce qu'on lit?
Eh ben, c'est très important de savoir qu'on lit les deux.
Ouais.
Quand on écoute de la musique, quand on n'a pas l'oreille absolue et qu'on n'est pas capable de lire une partition, on lit, on écoute, je ne sais pas, comment dire, Brahms par Weingartner ou je ne sais pas, ou Karajan, ce n'est pas le même. Et on sait qu'on lit les deux. Et la traduction, c'est exactement la même chose. Et donc, aucune traduction n'a le droit de dire « je suis le texte ».
Oui, bien sûr.
Voilà. Ouais. Et c'est pour ça que je parlais de la nécessité de la structure. On lit les deux par nature. Par nature, ça veut dire c'est ni bien ni mal. C'est pas possible autrement. Mais ça veut dire qu'il faut quand même faire attention au fait que c'est traduit. C'est-à-dire qu'il y a un travail derrière.
Ouais.
Ça veut dire donc qu'il faut quand même un peu respecter le travail de celui qui a travaillé.
Oui, tout à fait. Mais donc, quand vous traduisez, vous recherchez avant tout à faire entendre ce que vous avez compris du texte ou ce que vous avez ressenti du rythme, les deux. Enfin, c'est des questions basiques.
Non, hein, mais non, c'est pas ça. C'est au contraire, c'est ça. Mais sauf que comprendre, justement, pour dans le domaine artistique, c'est comprendre, sentir, avoir l'intuition d'eux. C'est tout ensemble.
Oui.
Tout ensemble. Et donc, bien sûr, c'est-à-dire, en fait, traduire, c'est mettre à la disposition d'autrui une lecture. Voilà.
Ouais.
Et donc construire la lecture, quoi.
Oui, oui, tout à fait.
C'est ça.
Ok.
C'est ça.
Oui, mais ça m'intéresse parce qu'en fait, c'est vrai que souvent, enfin, plusieurs fois, je me suis posé la question tout simplement de savoir si je pouvais encore lire des livres traduits, en fait, et ne pas amener. Et c'est des réflexions permanentes, justement, quand on. C'est le côté, le champ d'interprétation, justement, du traducteur, il est énorme.
Mais par exemple, votre chanson sur Tsvetaeva, vous ne parlez pas le russe.
Non.
Et vous n'avez sans doute pas entendu Tsvetaeva, les poèmes de Tsvetaeva. Mais moi, j'ai été sensible à une chose. C'est que vous mettez le sujet à la fin du vers et le verbe au début du vers suivant. Ce que fait Tsvetaeva. En français, on le traduit, sauf à Ève Malraux, mais quand on traduit en vers libre en français, on le fait, mais ça n'a aucune importance. Parce que tout Tsvetaeva est construit sur la rime, sur le rythme, sur la sonorité.
Ouais.
Et vous, qui n'avez lu que des traductions, vous avez senti ça. Donc ça veut dire que. Et ça, c'est en profondeur le mouvement de Tsvetaeva. Pom, boum, pom. Un truc comme ça. Et ça, ça veut dire que donc, bah oui, il faut lire des traductions, parce que ça donne la vie du texte. Ça donne la vie de l'auteur. Voilà.
Bien sûr, oui.
Bien sûr, bien sûr. Et. В смертных зверис зачароваться не чусь. В старческий верес, в сребро скользящую сушь. Ça, c'est un peu les arbres de Tsvetaeva. Comment ça marche comme ça? Pom, 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 pom. Bon, bref. Et donc. Mais on sentait ça. On sentait ça dans votre chanson avec autre chose. Avec le besoin que vous avez, même quand vous faites du parler-chanter, de la mélodie. Et qui est cette note, comment vous dire, j'emploierais un mot bizarre pour moi, élégiaque, qui fait aussi votre voix à vous. Qui n'est pas du tout chez Tsvetaeva. Mais c'est ça. Oui. C'est Tsvetaeva vu par ses traducteurs, vu par vous et entendu par nous.
Merci à Thierry Beauchamp pour la préparation, à Manuel Couturier pour la technique et à Jean-Christophe Francis pour la réalisation. Merci à Dominika et André Markovitch. Vous trouverez de toute façon toutes les actualités de nos invités du jour sur le site de l'émission, à réécouter, podcaster et partager sur franceculture.fr. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec LSD, la série documentaire.